Eh bien, pour conduire toutes les opérations intellectuelles et de recherche qui sont liées à cette entreprise, je vais faire appel d'abord à un secteur de l'édition papier traditionnelle, parce que, par exemple, les éditions Gallimard ont accordé à Shakespeare un privilège inouï, qui est celui d'une publication bilingue et d'une nouvelle traduction, qui permet en effet le travail philologique le plus précis qui soit. J'aurais aussi besoin d'acheter le livre de Roger sur Shakespeare et Cervantes, les travaux de Richard Mayenstrass et d'autres auteurs. Mais Roger Chartier, étant toujours narquois concernant l'usage du téléphone portable, je dois lui dire, et vous dire en même temps, que sur ce téléphone, j'ai non seulement téléchargé le podcast de son cours au Collège de France sur la publication de Shakespeare, mais aussi une série de cours dispensés par l'Université d'Oxford qui sont remarquables et qui sont gratuits sur la plateforme iTunes University, et là je parle de téléchargement légal, mais j'ai également par le même biais la totalité du folio de 1623, il est là, 1623 sans notes et sans aucun appareil critique, mais également un certain nombre de de textes de Shakespeare qui ont été lus bénévolement par les citoyens américains qui travaillent sur la plateforme LibriVox et qui lisent gratuitement des textes littéraires qui sont dans le domaine public. J'ai également sur mon téléphone portable des choses que j'ai téléchargées tout à fait légalement, comme par exemple, ou que j'ai placées sur mon téléphone de manière tout à fait légale, comme par exemple la série des mises en scène télévisuelles de Shakespeare, éditées par la BBC sous forme de DVD, qui peuvent parfaitement trouver leur place sur un téléphone cellulaire. Mais il y a aussi, dans ma pratique, du gratuit qui n'est pas légal. Et je pense que l'un des points que Roger Chartier n'a pas abordé, ou simplement dans la réponse aux questions, qui est la question, le problème du gratuit illégal. Autrement dit, pour dire les choses très simplement, du piratage. Et là, parmi les ressources que je peux mobiliser, il y a entre 500 et 800 titres d'essais de sciences sociales disponibles sur des sites situés, ou des serveurs situés en Russie et en Turquie, qui permettent à tout un chacun de télécharger une énorme bibliothèque de sciences sociales, mais avec ceci de particulier, que les deux langues de travail sur le site russe Library Genesis sont très 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 minoritairement le russe et quasiment exclusivement l'anglais. Ce qui fait que d'un certain point de vue, les éditeurs français peuvent se dire, consolation du pauvre, que la marginalisation de la langue française à l'échelle internationale fait que l'appétit de piratage des textes en langue française est moins vorace que l'appétit du piratage des textes publiés en langue anglaise. Deux points encore avant d'introduire cette discussion, mais c'est au fond pour poursuivre le débat qui s'est ouvert il y a un moment, sur la question de ce que fait à l'auteur le passage au numérique du livre qu'il avait rédigé en papier. Si on s'en tient aux chiffres que Roger nous a donnés tout à l'heure, notamment ce chiffre de vente de 800 exemplaires ou de 500 exemplaires, il est bien évident que les auteurs universitaires ne peuvent guère imaginer améliorer leur ordinaire par le versement des droits d'auteur afférents à une édition ou une vente sur 3, 4 ou 5 ou 6 ans de 800 exemplaires. Par conséquent, l'intérêt bien compris d'un auteur dans ces conditions-là est que leur livre soit disponible en électronique gratuitement. Les chercheurs n'ont aucun intérêt particulier à ce que leur livre soit vendu électroniquement, mais qu'il soit téléchargé de manière gratuite, puisque sur le plan, le copyright est garanti, et il n'y a pas de véritable défaut de ressources afférentes au piratage de leur propre texte. Dernier point sur lequel je voudrais placer l'accent, parce que j'ai une grande admiration pour un certain nombre de maisons d'édition brésiliennes, et je pense notamment ici, alors vous trouverez que l'exemple est trop bien choisi ou trop facile, qui est Compagnie das Letras, mais qui me paraît une maison d'édition qui a cette particularité d'éditer des livres de sciences sociales, de littérature générale aussi naturellement, qui sont des livres beaux, plaisants à tenir en main, et qui en particulier ont perpétué une tradition dont on ne comprend absolument pas pourquoi elle a été abandonnée en France, si ce n'est par l'achat des machines qui l'imposent, qui perpétue la tradition de ce que Roger mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire le cahier cousu. C'est-à-dire, il n'y a qu'en France, honnêtement, que l'on produise des livres aussi laids, non pas du point de vue esthétique, aussi laids du point de vue de leur médiocrité technique. Allez en Espagne, le moindre best-seller est cousu. L'avant-dernier livre de Javier Cercas, par exemple, est un roman qui s'achète dans les relais et qui est un hardback qui coûte 20 euros. Le coût de fabrication, l'augmentation du coût de fabrication lié à la bonne qualité du livre, au plaisir de tenir un livre dont les pages ne se décollent pas au bout de... soit parce que le printemps a été trop humide, soit parce que l'été a été trop sec. Cette condition-là, le problème de la dégradation de la matérialité des livres en France, le passage de la technique du livre de poche vers le grand format, sans en passer, ce qui pourrait être le cas, par l'exigence qui avait été posée par Guy Scheller pour bouquins et reprise par Omnibus et Quarto, par exemple, qui fait que nous avons en France, malheureusement, tant en littérature qu'en sciences sociales, des livres mal faits, des livres qui ne sont pas plaisants et des livres qui ne sont pas durables. Et donc, il me semble que l'un des cris d'alarme que l'on peut adresser au monde de l'édition est aussi de se retourner vers les éditeurs dans les rapports qu'eux-mêmes établissent avec les fabricants, de telle sorte que l'envie d'acheter des ouvrages, comme ceux de petites maisons d'édition qui s'en tirent extrêmement bien, qui arrivent à survivre avec des objets qui sont infiniment plus beaux, puissent inspirer les grandes maisons d'édition. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais prononcer avant de passer la parole à mon collègue et néanmoins ami Emmanuel Desvaux.
Alors, merci Jean-Frédéric. Alors, juste une petite remarque très très brève sur cette dernière remarque que tu nous fais sur la mauvaise qualité des livres. C'est une question bassement économique. Les coûts d'impression, ça coûte cher. Et on est subventionné, mais pas tant que ça. Donc, si on pouvait encore dépenser deux fois plus pour imprimer chacun de nos livres, on aurait certainement des livres beaucoup plus beaux à tenir. Mais malheureusement, on essaye aussi de tenir des coûts. C'est un vieux problème. Plus globalement, voilà, ce que je voudrais être très bref et faire juste deux remarques. L'une qui a trait aux sciences sociales en général et l'autre qui a trait au numérique. Et je ne sais pas si ces deux remarques, j'arriverai à les articuler, mais voilà comment je vois les choses. Donc la première remarque, c'est qu'au fond, à partir du XVIIe siècle, la littérature et la philosophie se séparent. Et que si on a des grands philosophes d'une part, on a aussi une littérature qui s'installe, donc c'est surtout au 19e, Stendhal, Tolstoy, puis Thomas Mann, Proust, Musil, si on revient au 18e, Sartre, Sade, puisqu'il était à la mode, proposent tous à leurs lecteurs un univers de fiction qui est aussi une vision du monde. Un univers d'ailleurs en général qui est très bien informé du savoir positif de l'époque où ils écrivaient. À cet égard, à la même époque, on voit la poésie se distinguer et de rentrer dans un régime tout à fait autonome d'écriture, un régime d'intensité, comme l'a dit Paul Venn, dans un texte très 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 sensé. Et ce régime éloigne en quelque sorte la poésie des autres genres littéraires au point presque de la perdre. Disons qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, les sciences sociales, qu'on peut considérer comme étant les héritières de la philosophie, croisent de nouveau la littérature comme description et explication du monde. Ou plutôt, me semble-t-il, sont parvenues à la supplanter. Ethnologie ou anthropologie, histoire, sociologie jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans notre façon d'interpréter le monde, dans la vision qu'elle nous offre pour nous aider à interpréter le monde. Les grandes œuvres, les grands auteurs appartiennent à notre sphère, nous, représentants de ces disciplines aujourd'hui. Braudel, Lévi-Strauss, Foucault, Bourdieu, Vivero de Castro, par exemple, pour que je tiens personnellement pour l'un des très grands anthropologues brésiliens, anthropologues en général et brésiliens en particulier. On retrouve ce même schéma dans ses œuvres, c'est-à-dire une œuvre comme une totalité partielle. Chaque œuvre est une totalité partielle. Et à cet égard, bon, on conviendra, Freud fait figure de précurseur. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que on a, entre cette période, disons, où la littérature domine, et puis cette période où les sciences sociales dominent, on a une période de transition, où on a des auteurs qui ont un pied dans, disons, l'académie et un pied dans la littérature, et on voit très bien à quelle époque on peut faire référence. En France, c'est les années 50 à 60, c'est Sartre, Beauvoir, Bataille, Denis de Rougemont, Orwell en Angleterre, Florestan Fernandez au Brésil, peut-être. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les sciences humaines, au fond, campent à mi-chemin entre l'académie et la sphère publique. C'est exactement en ça qu'elles ont quelque chose à dire. Elles ne doivent pas devenir des sciences refermées sur elles-mêmes. Elles ont toujours, plus que jamais, vocation à être à la charnière entre un espace universitaire, qui est un espace universitaire en soi, avec ses propres règles. Hein. Les sociologues nous ont enseigné que chaque profession a ses propres modes d'être, ses propres modalités de reconnaissance, et puis cette articulation avec une sphère beaucoup plus ouverte, une sphère publique, société civile, qui ont d'autant, on peut dire aussi, ce qui correspond à cette ère du temps, à ce moment où une société se pense globalement elle-même, avec un rapport positif et un rapport critique à cela. Et de ce point de vue-là, comme l'a très bien montré Roger, les presses universitaires ont leur place dans ce dispositif, hein, dans un dispositif qui est charnière entre deux univers, un univers restreint, un univers beaucoup plus global, et c'est ça qui fait... fait leur grandeur, tout simplement. Et c'est ça qui est le fond de leur vocation. Alors voilà, ça c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est quelque chose qui a trait à l'ère numérique. Alors là, c'est peut-être là où j'ai une position un peu naïve, un peu... nostalgique, un peu passéiste, mais ce que Roger nous a dit confirme à mon sens quand même quelque chose dans ce sens-là, c'est qu'au fond seul le papier permet d'identifier le livre comme unité constituée d'ordre intellectuel. Ce livre qui se tient dans la main, ce livre que Jean-Frédéric a envie qu'il soit en plus bien imprimé et bien relié, il a raison, parce qu'au fond, c'est la dignité même du livre qui est liée à sa forme matérielle. Mais c'est aussi ce rapport avec un auteur, un auteur vivant ou mort, mais un auteur dans sa corporalité, qui permet en quelque sorte cette articulation entre le livre, l'unité, unité intellectuelle constituée et un auteur, une pensée, et donc quelqu'un qui est susceptible de nous donner une vision globale sur un thème donné à un moment donné. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel Roger a insisté. Je crois que c'est une vraie préoccupation qu'on peut avoir, c'est que le livre imprimé est imprimé à une certaine date. Il correspond à un certain état des choses, un état du monde. Il est contemporain d'autres livres qui sont publiés à d'autres mains. Il est contemporain de biographies, la nôtre en tant que lecteur, mais celle d'une génération, de tout un ensemble. Et on voit bien que l'une des menaces du livre de l'univers numérique, c'est le texte flottant, non stabilisé, toujours révisé, toujours révisable. Alors on nous dit c'est super, vous pouvez toujours réviser les choses. Mais il y a un danger là-dedans, c'est qu'il y a une déstabilisation de la référence chronologique à un certain moment, un état du savoir, un état de la réflexion et un moment générationnel. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, il y a quelque part une logique du continu, des petits intervalles, qui est celle de l'Internet, qui est une logique de l'indexation aussi, des faibles écarts, il y en a, c'est des fragments, mais ils sont perpétuellement recomposés, versus une logique, évidemment, on ne peut pas tout contraster de façon trop radicale, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une logique des grands intervalles. Des œuvres, celles qui vont marquer leur époque, celles qui vont marquer leur temps. Et c'est là où on peut se poser la question. C'est la question de prophétiser, mais si on est un acteur, on peut se demander dans quel sens il faut aller. Est-ce qu'il faut encourager les petits intervalles? Est-ce qu'il faut tout faire pour fluidifier? Est-ce qu'il faut tout dérégulariser? Est-ce qu'il faut encourager ce mouvement que la technique nous autorise à faire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut, quelque part, trouver quand même ou maintenir des dispositifs qui, précisément, consistaient à produire des œuvres, à produire des livres comme des singularités, dans un moment donné, attachés à des auteurs, attachés à un moment de la vie d'un auteur, et dont on voit bien que la logique du numérique va totalement à l'encontre de cela. Car c'est, me semble-t-il, quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que la logique du numérique favorise les petits intervalles et est l'ennemi des grands intervalles. Alors, me semble-t-il, dans ce cadre-là, le rôle de l'éditeur reste plus que jamais son rôle traditionnel, c'est-à-dire de faire émerger des œuvres, de faire émerger des auteurs. Et de ce point de vue-là, il faut tenir bon dans ce que nous avons toujours fait. Et le livre numérique, l'expérience que vous évoquiez pour l'Université de Columbia est tout à fait parlante de ce point de vue-là. Le livre numérique, la logique numérique ne peut pas se substituer à la logique traditionnelle d'un livre. Et me semble-t-il, du moins pour un certain temps, je pense qu'il faut faire le pari de faire du livre numérique un dérivé du livre papier. Il faut continuer à faire un livre papier comme un livre de référence. Et effectivement, il faut le décliner sous sa forme numérique pour en faciliter la diffusion. Mais je ne pense pas qu'il faille renoncer à ce livre papier comme objet, comme démultiplication à travers l'espace du corps de l'auteur. Et peut-être que si, au fond, aujourd'hui, dans la période qui est récente, que nous avons connue, et qui est encore peut-être encore la nôtre, si l'auteur en sciences sociales est, au fond, peut-être celui qui a suscité le plus de cette ferveur ces dernières années. Foucault, le culte de Foucault, le culte de Bourdieu, c'est l'équivalent de Victor Hugo, à une autre échelle. Mais enfin, on voit des phénomènes de ferveur équivalents. C'est parce que l'université offre aujourd'hui peut-être le seul lieu, l'université ou une institution comme l'École des études en sciences sociales ou le Collège de France, sont des lieux où encore se permet cette articulation entre le corps de l'auteur et son auditoire. Le corps de l'auteur, la parole de l'auteur qui est là à travers une présence et un auditoire qui est susceptible d'être un lectorat. Ou qui est susceptible d'être le premier relais d'un doctorat plus généralisé. Ce modèle, peut-être est-il périmé, on l'a connu de façon très, 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 très virulente, on voit qu'il s'érode un peu, mais je pense qu'il serait très, très, très périlleux pour, je vais employer les grands mots, pour la pensée elle-même, il serait peut-être très périlleux d'accélérer sa liquidation, au contraire, je pense que notre rôle doit être, nous éditeurs universitaires, d'essayer au contraire de continuer à jouer ce rôle de pépinière d'auteur et d'essayer de faire émerger des auteurs, de leur donner une chance de se révéler. Non pas seulement parce que publier un livre, c'est bien pour commencer une carrière académique ou ça relance une carrière académique, ce qui est vrai, mais je crois plus fondamentalement pour défendre cette idée que la pensée ne peut exister qu'à partir de balises. Et depuis le XVIe siècle, le XVIIe siècle, encore le XVIIIe, ce sont bien des grands auteurs qui ont organisé le champ intellectuel. C'est autour de grands auteurs que s'organise le champ intellectuel. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver ou tenter de maintenir le plus longtemps possible, tout en étant absolument attentif aux façons d'adapter nos modèles à l'ère numérique. Et là, je finirai par une dernière remarque. Pendant longtemps, on a vu un modèle qui a bien fonctionné, qui était celui de ma génération, quand j'étais jeune. On allait lire des livres en bibliothèque, et on lisait des livres en bibliothèque, on allait acheter le livre en librairie, parce qu'on avait envie d'avoir ce livre dans sa bibliothèque personnelle, ce livre qu'on avait apprécié, qui nous avait... Et je pense que peut-être que le numérique peut jouer ce rôle, c'est-à-dire une nouvelle génération de lecteurs, dont on a très bien vu qu'elle a beaucoup de difficultés à lire, à s'approprier l'objet livre. Et votre remarque est tout à fait intéressante sur le fait que les garçons sont beaucoup plus réfractaires aujourd'hui à la lecture. Ça, je le vois. J'ai un garçon et deux filles, et j'ai beaucoup plus de facilité à fourguer des livres à mes deux filles qu'à mon garçon. Donc je peux attester de cette réalité. Et donc je pense que le numérique peut être une façon de ramener des lecteurs vers le livre dans sa conception conventionnelle, traditionnelle, et qui, voilà, c'est peut-être là où j'aurais une petite note d'optimisme en quelque sorte dans ce schéma-là. Je crois qu'au contraire, donc le numérique doit être on doit viser le numérique comme quelque chose qui ramène vers une forme traditionnelle de lecture et d'appropriation des auteurs à travers le livre. Voilà, que vous faites.
Merci Emmanuel. Présent, j'ai passé la parole à Laura de Melo Sosa, qui après une première carrière à la USP, nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter de faire une seconde carrière à Paris, à la Sorbonne. Et je te passe tout de suite la parole.
Alors, bonjour. Je remercie les organisateurs, Guillaume, mon ami Guillaume de Gramont, Jean-Fred Schaub, aussi mon ami, l'ambassade du Brésil, de nous accueillir ici. J'essaierai de parler d'une façon très résumée sur la numérisation ou la recherche historique dans le Brésil pendant les dernières années. Alors, je crois que j'aimerais bien commencer en posant une question qui est la suivante. La situation du Brésil par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'au moment est tout à fait différente. Il faut tenir en compte que nous vivons dans un pays, le Brésil, qui est même très différent dans cette tradition de l'Amérique saxonique et surtout de l'Amérique hispanique. Parce que c'est un pays, c'est une région, premièrement, qui n'a pas eu de presse jusqu'à 1808. Deuxièmement, c'est une région, un pays, après, sans université jusqu'à 1934. Et troisièmement, je crois que c'est le plus joli, le plus intriguant, il y a là-dessus un paradoxe. C'est un pays que, en 1822, est devenu indépendant et, dans les clauses de son traité d'indépendance, a mis la Bibliothèque royale. Alors, ça a été étudié dans un très beau livre par Lily Schwartz, Le long voyage de la Bibliothèque des Rois. La Bibliothèque nationale du Rio de Janeiro est parmi les plus importantes bibliothèques du monde. Il y a des trésors là-bas. Je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un élément important pour penser qu'un pays qu'en 1822 était un pays avec une énorme majorité d'illettrés a fait absolument question de conserver la bibliothèque des rois, avec les incunabules, les livres d'heures de Notre-Dame, une collection qui est parmi les plus importantes du monde, et enfin avec la Bible, l'édition la plus importante, avec des préciosités de Albrecht Dürer, avec des gravures des artistes de la Renaissance. Alors c'est un vrai trésor que ces élites ont voulu conserver. Alors je commence avec ces paradoxes, parce que je crois que dans ces pays qui est le Brésil, qui est c'est un endroit très éloigné, j'ai l'habitude de dire que le Brésil est même loin du Brésil, et parce que moi je vis au sud, pour aller au nord il faut 4 heures d'avion. Alors dans ce pays-là, la question de la numérisation a beaucoup changé. Comme vient de dire Jean-Fraise, j'ai fait toute ma carrière au Brésil, je n'ai jamais sorti du Brésil jusqu'à ce moment-ci, sauf pour des périodes très courtes, sauf pour faire de la recherche et pour utiliser les bibliothèques. Alors, dans un pays, dans 32 ans, comme professeur à l'université et à peu près comme pendant 30 ans comme directeur de recherche, je peux me rendre compte que dans les dernières années, la situation a tout à fait changé avec l'impact de la numérisation. Je veux parler un peu de cette question. Premièrement, il y a l'effort des institutions publiques, des archives et des bibliothèques. Alors, je ne connais pas la situation de l'archive nationale du Brésil, qui est très, très, très triste. Je connais un peu la situation de la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro, qui a numérisé tous les périodiques, ainsi que plusieurs fonds qu'on peut consulter aujourd'hui, et que développe des projets communs avec la Bibliothèque municipale de São Paulo, la Bibliothèque Mário de Andrade, qui est aussi une très grande bibliothèque, très importante, et est en train de réaliser un projet commun avec les bibliothèques du Cap-Vert, de l'Angola, du Mozambique, je crois que de São Tomé et Príncipe aussi, et la Bibliothèque nationale de Portugal, pour faire la plus grande bibliothèque numérisée du monde lusophone. Je ne me détiendrai pas sur les caractéristiques des populations de ces endroits que je viens de citer, où il y a beaucoup d'illettrés, et où les bibliothèques, quelquefois, sont, sauf dans les grands centres, elles sont très, très peu importantes. Alors, je crois que c'est un projet qu'il faut mentionner. Je fais mention aussi du énorme effort développé par un archive que je crois qui est un vrai exemple dans la situation brésilienne, qui est l'archive publique de Minas Gerais, qui a aussi mis en ligne les catalogues de ses fonds, les collections de sa très ancienne revue de l'archive publique de Minas Gerais, qui est une très grande préciosité, et a disponibilisé plusieurs fonds. J'ai travaillé beaucoup dans les fonds de Minas Gerais quand j'avais 23 ans, alors c'était le siècle dernier. Et à ce moment-là, il fallait voyager plus de 12 heures en bus pour arriver à ces archives. Maintenant, on peut les consulter dès la ville de São Paulo, où j'habite. Il y a l'exemple extraordinaire aussi de la bibliothèque brésilienne Milling, qui a été donnée sous des conditions très spéciales, 99 ans, à l'université de São Paulo, qui en a construit un édifice absolument remarquable. Maintenant, il a le problème de financer le fonctionnement de ce bâtiment. Mais c'est une bibliothèque avec 44 000 volumes. C'est seulement la partie. Monsieur Milling était le plus grand collectionneur privé de livres au Brésil. Il n'a donné que la partie luso-brésilienne de sa bibliothèque. Mais il y a des premières éditions remarquables, par exemple, la comitive qui a fait partie du gouvernement de Maurício de Nassau pendant le Brésil holandais, Barléos, William von Pinso, tout est là. Cette bibliothèque a aussi été mise en ligne, vous pouvez consulter avec l'adresse, je ne me souviens pas, mais c'est facile de le trouver, Brasiliana Mindli, et vous pouvez avoir accès au dictionnaire du XVIIIe siècle, à toutes ces éditions remarquables. Deux, je veux parler un peu des universités parce que je crois que j'ai le devoir de dire que nous avons beaucoup plus, enfin le Brésil c'est un pays complexe avec des grandes qualités, des problèmes très grands, mais je crois que parmi les choses que nous avons réussi à bien faire, c'est de disponibiliser les dissertations et les thèses universitaires depuis les années 1990. Alors, tout le monde peut la consulter, voir quelle est la production intellectuelle dans les principales universités brésiliennes. Toutes les universités, dès Roraima jusqu'à Rio Grande do Sul, si elles ont des écoles doctorales qui font partie du système universitaire reconnu comme d'excellence par le ministère de l'Éducation, la CAPES, alors vous pouvez trouver tous ces programmes, toute la production de ces programmes en ligne. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour la recherche, soit au Brésil, soit à l'extérieur. Alors, l'Université de Saint-Paul, qui a été mon université pendant toute ma vie et continue à l'être, a mis en ligne toute sa production académique, a été la première à le faire, mais maintenant, toutes les universités, si je ne me trompe pas, ont mis en ligne sa production académique. Je parle un peu aussi des agences de soutien à la recherche parce que je crois qu'il y a une relation de cause et effet et on ne peut pas dire qui est né premièrement, si c'était l'œuf, si c'était la poule. Mais en tout cas, il y a un système d'évaluation des écoles doctorales, des programmes doctoraux par le ministère de l'Éducation, mené par la CAPES. Et alors, selon les exigences de ce programme, il a fallu mettre en ligne la production académique de toutes les universités. Aujourd'hui, je peux le dire que l'évaluation des programmes et des travaux, aussi bien que des CV, des chercheurs, soit à la CAPES, soit au CNPq, est faite en grande partie par la voie de la numérisation. Alors, moi-même, j'ai fait partie des deux comités, de CAPES et CNPq. Il y a des réunions qui se font à Brasilia, il y a des réunions qui ne se font pas à Brasilia, se font chacun dans sa ville, avec tous les procès, le programme en ligne, et on discute cela par l'Internet. Et en ce qui regarde encore les institutions de recherche, je fais mention de quelque chose que je crois que les Brésiliens peuvent être fiers, c'est la plateforme César Lattes. Lattes a été un des plus grands scientifiques brésiliens du XXe siècle, je crois qu'un des plus grands scientifiques, un des scientifiques importants du XXe siècle. D'après son nom, on a créé cette plateforme qui a mis en ligne les CV de tous les chercheurs brésiliens, de tous les domaines, dans ce système que je crois qu'est un des plus importants du monde parce qu'il est ouvert, on peut connaître la production de tous les anthropologues, les médecins, les biologues, dès qu'ils ont eu le souci d'avoir un CV en ligne. Prochain point que je voudrais mentionner, ce sont les revues d'histoire qui deviennent de plus en plus numérisées. Je me suis rendu compte très récemment que, par exemple, une des revues les plus importantes dans le domaine de l'histoire qu'il y a au Brésil, que c'est la revue Tempo de l'université, du programme d'histoire de l'Université fédérale du Fluminense, il ne sort plus en papier. Il n'y a que l'édition numérisée. La revue de mon département, Revista d'Histoire, qui est la plus ancienne revue d'histoire du Brésil, a créé par un disciple de la mission française, Eurípides Simões de Paula. Au moment, elle a aussi une édition numérisée. Je vous fais mention ici de deux revues que je considère très bonnes comme divulgation scientifique, soit la revue de l'Institut Ciência Hoje, qui a premièrement fait partie de SBPC, qui est une association scientifique très importante au Brésil, qui a des éditions numérisées, et aussi la revue d'histoire de la Bibliothèque nationale, dont j'ai fait partie de son premier conseil. Maintenant, elle entre dans une deuxième phase. C'est une revue très bonne. Et aussi, elle a une édition numérisée qui peut être consultée. Je fais mention d'une expérience de laquelle j'ai aussi fait partie, qui a été une expérience, je trouve, remarquable, d'un journal de compte-rendu qui s'appelle Journal de Resenhas, qui a été créé par un groupe de l'université, de la faculté d'apportage philosophie, ma faculté de l'université de São Paulo, et qui, avec des efforts herculéens, elle a premièrement été imprimée et a circulé dans le journal Folha de São Paulo. Et après, avec le prix du papier, on nous a donné congé. Nous sommes restés sans abri pendant 2 ans. Nous avons réussi à avoir un nouvel abri. Nous étions publiés par l'imprimerie officielle de l'État de São Paulo. Et on distribuait ce journal de compte-rendu dans toutes les universités fédérales et publiques des États, des provinces du Brésil. Ça n'a pas marché non plus, ça a fini il y a 4 ans. Donc maintenant, je viens de recevoir un message de l'ancien éditeur, qui est un prof de philosophie de l'Université de São Paulo, en disant qu'on est en train de mettre en ligne la version numérisée du journal, journal de compte-rendu, journal de résenhas. Alors, je crois que c'est une solution très intéressante pour un journal qui a été d'une importance extraordinaire et que n'a pas pu continuer sa publication. Je finis par quelques conclusions, quelques observations finales. Qu'est-ce que je voudrais dire avec ce résumé très simple, très empirique. Je crois qu'il y a des énormes bénéfices dans un pays si grand comme le Brésil, avec très peu de bibliothèques, des librairies. Nous n'avons, il y a moins, si je ne me trompe pas, il y a ici les spécialistes, on n'a pas dans tout le pays, je crois, le même... On a à peu près la même quantité de librairies qu'il y a à Buenos Aires en Argentine. Alors, c'est un numéro, c'est de l'ordre de confiance, la quantité de librairies au Brésil. Et d'un côté, on a, alors c'est très contradictoire parce que d'un côté, on a très peu de bibliothèques. Si on sort de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, où il y a des bibliothèques magnifiques, Minas Gerais, Pernambuco peut-être, on n'a pas de bibliothèques vraiment importantes au Brésil. De l'autre côté, on a un système universitaire d'une extrême richesse et d'une extrême complexité. Alors, il y a des départements avec des programmes de recherche qui sont vraiment bons, mais qui n'ont pas accès aux bibliothèques et aux archives. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans les dernières, je crois, dans la dernière décennie? On reçoit, je connais le cas de mon université, on reçoit dans les concours pour des projets absolument magnifiques, remarquables, qui ont été faits dans les recoins le plus éloignés qu'on puisse imaginer, avec une sophistication méthodologique, théorique et empirique absolument incroyable. Et quand on demande où est-ce que vous avez fait cette recherche, je l'ai faite en ligne. Alors, parce qu'en plus, il y a le problème de la distance. Le pays, c'est quelque chose d'énorme. Alors, dans ce contexte très spécifique, je crois que la numérisation est vraiment quelque chose de très important. Il y a encore... Je reviens à la très grande bibliothèque nationale, à la Bibliothèque royale. Le modèle des élites brésiliennes jusqu'à 20 ans, peut-être moins, a été, des élites intellectuelles, a été celui des grandes bibliothèques privées. Alors, les gens, les collègues français, nord-américains, s'extasie, enfin, avec les bibliothèques privées qu'on a au Brésil. Je crois que ça, c'est un signe dangereux de inégalité sociale. Je crois que ça peut commencer à changer. Alors les gens n'ont plus besoin d'avoir des bibliothèques très grandes parce qu'on peut avoir une quantité de livres numérisés, surtout les plus récents, évidemment. Et ça peut mener à des changements du point de vue sociologique très importants, je crois, d'un rapport plus démocratique avec la connaissance. Parce que dans un pays comme le Brésil, la connaissance, évidemment, est aussi un instrument très fort de pouvoir. Et je crois que ça doit mener aussi à tout un changement de ce que les institutions de recherche considèrent comme capables d'être financées. Alors, le soutien à la recherche doit aussi changer parce qu'on n'a plus besoin de sortir de chez soi pour consulter plusieurs bibliothèques dans le monde. Alors, les critères doivent devenir plus raffinés, plus pointus en ce qui regarde la concession des bourses. Alors, cette très généreuse bourse brésilienne dont on parlait il y a une demi-heure, une heure, je crois que ça doit changer aussi. On pourra destiner les ressources de recherche vers d'autres types de projets et pas aux bourses pour des recherches à l'étranger, pour consulter des bibliothèques, etc. Je finis pour faire un appel parce qu'on est en train on commence les célébrations du Salon du Livre. Je viens de quitter mon pays, comme Jean-Fred vient de le dire, pour commencer une petite carrière ici parce que je n'aurai plus beaucoup de temps jusqu'à la retraite. En tout cas, ce qui m'étonne, c'est le peu de traductions disponibles en langue française. Et si on a aujourd'hui, quand même, Monsieur Chartier l'a reconnu, enfin, tout le monde le sait, on a une production dans les sciences sociales, parce que je ne parle pas de la fiction. La fiction, elle a toujours son lieu. Mais dans le champ des sciences sociales, aujourd'hui, il y a des programmes brésiliens, soit à la Bibliothèque nationale, soit à la Fondation de soutien à la recherche de l'État de São Paulo, FAPESP, qui peuvent aider à financer, elles peuvent faire la traduction des livres scientifiques de sciences sociales. Et alors, il faut, je crois, avoir de la sensibilité pour une très grande production. Le seul auteur mentionné jusqu'ici qui est traduit en français, je crois que c'est Édouard Viveiro de Castro. Je viens, il y a 3 jours, j'ai reçu 2 volumes très très beaux, édités par Compagnie das Letras. Je m'excuse du manque de modestie, je les ai organisés. Ce sont 2 volumes, un d'inédit et l'autre la nouvelle édition de Mon Sonne de Serge Buarque de Holanda, qui est peut-être le plus grand historien brésilien du XXe siècle. Serge Buarque de Holanda n'a que Racine du Brésil traduit en français. Alors, il a une œuvre absolument magnifique selon tous les critères possible et il n'a pas de traduction en langue française. Alors je crois que pour l'évolution de la lecture en sciences sociales dans les rapports entre la France et le Brésil, il faut vraiment faire un effort très grand pour traduire toute cette production universitaire brésilienne. Je vous remercie.
Merci Laura, et je passe à présent la parole à Laurent Vanini qui étant sans doute le plus jeune de cette table, a déjà eu plusieurs vies, pouvoir travailler dans le monde de la communication et conduire actuellement une recherche sur la transmission de l'oubli, ce qui me semble être en parfaite consonance avec certaines des remarques de Roger Chartier tout à l'heure. Je crois que celui-là fonctionne. Ah, c'est
les deux. Bonjour. Ouais, pour compléter, donc je suis aussi traducteur, je suis désolé, je ne pourrais pas traduire les auteurs en particulier parce que je ne parle pas, la fâcheuse manie de parler anglais et le français simplement. Je ne traduis que de l'anglais à le français. J'ai été également en fait consultant en nouvelles technologies dans une structure qui s'appelle Sofrecom, que vous ne connaissez pas sans doute, qui sont donc des mercenaires de France Télécom. Donc j'ai été mercenaire. Je le suis encore un peu, mais ça c'est pour mon directeur de recherche, Pierre-Julie Lacombe. Il ne le sait pas encore. Mon portable ne contient aucun fichier numérique. Par contre, il a un dispositif qui est formidable, je ne l'allume pas parce que je vais faire grésiller toute la pièce, c'est une lampe de poche. Et donc c'est une lumière, pas, qui me permet de lire des textes, notamment dans le noir, mais qui va avoir un rapport avec ce dont je voudrais parler, et je voudrais aussi m'excuser auprès de nos autres Brésiliens, parce que je ne vais pas parler de Brésil, d'ailleurs peut-être qu'ils m'en remercieront, parce que j'en aurais dit beaucoup de bêtises, et je voudrais m'excuser aussi auprès des professionnels et des historiens de la lecture, de l'écriture, et des textes, Chartier, parce que je crois que je vais parler de choses que je ne maîtrise pas, mais je préfère l'avenir. La première chose que je voudrais dire, c'est que si je n'ai pas de fichier numérique sur ce téléphone, j'en ai à peu près 40 103, je les ai comptés, sur mon ordinateur, dont 23 000 fichiers qui correspondent à des livres de sciences sociales. Je n'en ai lu que 3 ou 4 en entier, qui correspond à un ratio assez faible. J'ai par contre, mes reprises d'études, il y a 5 ans environ, acheté entre 200 et 250, je crois, livres de sciences humaines, que j'ai lus pour la plupart, on peut essayer. Certains, j'ai arrêté, mais ce n'était pas de la faute ni de l'éditeur, ni de l'auteur, sans doute, de mon rapport à la lecture. Alors justement, je vais faire une petite expérience auprès de vous, si vous voulez bien, je vais vous demander de fermer les yeux, hein, d'accord, parce que c'est important de fermer les yeux. Parfois. Donc j'aimerais commencer ma présentation par une image, celle que chacun d'entre vous va créer à l'évocation d'une rencontre qui a eu lieu dans les années 20, en 1924, entre 1924 et 1928 peut-être, il me semble, et qui nous est rapportée par l'un des protagonistes dans un livre publié en français, chez Bibliothèque Rivage, voilà quelques années. Alors, il faut imaginer deux personnes devant des tableaux qui se baladent dans un musée, une personne brune, masculine, costume assez rigide, assez austère, des lunettes rondes, un grand nez, un grand front, maigre, et puis une femme, petite, brune, cheveux bouclés, un regard immense, yeux bruns. Et quelques 50 ans plus tard, l'homme en question va, à la mort de cette femme, rédiger un livre, un mariage, et il va dire quelque chose qui est assez beau, je trouve, et je vous laisse peut-être cette image-là, c'est... Son regard empli d'étonnement et de gratitude me saisit sans cesse quand, au Kaiser Friedrich Museum, j'ouvre ses yeux augmentés, comme elle le disait, devant les tableaux, en traduisant ceci dans l'ordre du langage. Vous avez peut-être une image en tête, je vous révèle qui a écrit cela, c'est Gunther Anders, dans un livre qui s'appelle « La bataille des cerises, dialogue avec Anna Arendt », qui a été publié donc chez Bibliothèque Rivage et traduit par Philippe Hiverner. Je précise que j'aime donner les noms des traducteurs, ce qui est assez rare. Vous avez entendu bien, c'est suffisant. Bon. Alors je ne sais pas ce qui apparaît derrière vos yeux ou devant vos yeux, hein, parce que ça passe devant vos yeux à la manière des conteurs qui, à la réception d'un conte, souvent, lorsqu'ils essaient de le redonner à entendre dans leurs propres mots, suivent les paysages qu'ils ont créés en l'écoutant la première fois.
J'éloigne.
Je parle fort. Sans micro, c'est bien aussi, non ? Bien. Alors, c'est formidable. Je préfère. Je ne sais pas quelle image vous avez, mais moi, lorsque j'évoque intérieurement Anders et Arendt, qui contemple ces tableaux dans le musée berlinois, il y a quasiment 90 ans, les mots d'Anders ouvrant les yeux de Arendt, dont il décrit par ailleurs, dont disait qu'à par ailleurs qu'elle était une enfant du peuple du livre, ou mieux l'incarnation de celui-ci, c'est une traversée qui joue un cheminement. J'exagérerai en disant que c'est un peu Saint-Christophe qui porte l'enfant, qu'Arendt n'était déjà plus, mais qu'elle redevenait à l'écoute des mots d'Anders, le regard plongé dans les tableaux, qui alors s'animait. Quelque chose ici symbolise pour moi la lecture en sciences sociales, mais la lecture en général. Je vais faire un écart, je suis impardonnable. Il y a un objet, un champ étudié par un chercheur, ici un tableau. Le chercheur, dans des circonstances temporelles, spatiales, émotionnelles, donc empiriques, singulières, écrit ou décrit à propos de sa relation au tableau. Il dit quelque chose de cette relation, et pareil, il dit quelque chose du tableau. Mais
Il ne révèle pas l'être au tableau, qui n'existe pas, mais il permet à celle ou à celui qui le lit ou l'écoute de prendre la distance de l'écrit. Bon, ça, ça a été dit, mais je le répète, parce que c'est pour moi important, dans l'évolution des lectures. Et il permet de prendre la distance au moment où la personne le lit ou l'entend, et de voir le tableau tel qu'elle ne pourrait, tel qu'elle ne pouvait jusqu'alors que le regarder. La rencontre entre un chercheur en sciences sociales au travers de son pensée a quelque chose à voir avec la rencontre entre Arendt et Enders devant les tableaux, à mon sens. Et c'est une des lectures que moi je traverse lorsque, à l'EHESS, un chercheur décortique au cours de son séminaire sa pensée autour d'un objet, avec un objet, et ça peut être la pensée d'un autre auteur de sciences humaines. Là, je rends hommage à mon cher directeur de recherche, Pierre-Julien de Lacombe, qui chaque lundi partage une forme de transe, pardon, d'enthousiasme, à nous faire découvrir et à découvrir avec nous l'un des premiers ouvrages de sciences humaines, là il est abattu, l'Iliade, qui donne vraiment à voir, hein, il met devant les yeux, hein, métaphore, l'horreur de la guerre. Et il le donne à voir à ceux derrière, hein, ceux qui n'y sont pas, dans un temps présent aux poètes, mais aussi pendant des générations et des centaines d'années, à quelques générations de philologues, de philosophes et de lecteurs que nous sommes tous, dont Freud en 1915, qui en écrivant Considération actuelle sur la guerre et la mort, se pose des questions identiques par rapport à une autre guerre qu'il dit être, elle, un seuil. Mais ce sont ces personnes-là, ce sont ces auteurs, et puis ces chercheurs qui augmentent nos yeux, et qui nous permettent plus tard d'augmenter les yeux d'autres Arendt, d'autres émerveillés. Alors ces fenêtres ouvertes en Arendt par un Anders amoureux, moi c'est ce que je dis, voilà, nous n'irons pas assez, et heureusement encore, mais elles nous sont familières. Alors là je vais passer, parce que autrement je trouve, elles sont un peu les espaces entre un passé et un futur, elles sont une double tension, j'allais dire, un peu pour reprendre Saint-Augustin sur lequel Arendt a fait sa thèse, c'est une tension à la fois douce et amère entre un temps coulé et puis un temps qui n'est pas là, entre un passé et un futur, et puis ce qui s'étire d'autant plus à partir du présent. Dans deux autres registres que j'aime citer aussi, parce que c'est un peu comme le chant de la Nina das Penes dans le texte de Lorca sur le Duende, qui donne à entendre ce qu'est c'est le Duende lorsqu'il dit que sous l'arche vide passe un vent de l'esprit qui souffle avec insistance sur la tête des morts à la recherche de nouveaux paysages et d'accents ignorés. Un vent qui sent la salive d'enfant, l'herbe écrasée, le voile de la méduse, qui annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées. Le baptême permanent des choses fraîchement créées. Ça, je vous demande de garder ça en tête, parce que c'est important. Et le Duende, cher à Federico García Lorca, sinue entre Arendt et Enders, à mon avis. Et bon, là, Enders a beau mettre des mots sur l'œuvre qu'il regarde, de toute manière, il ne peut pas la recouvrir, il ne peut pas la couvrir. Il ne peut que faire circuler. Arendt, devant elle, voit les tableaux prendre vie. Cette double tension de la lecture, je l'ai trouvée au-delà des séminaires, qui, si je me limite à ces seuls séminaires et à une lecture accompagnée, peut devenir un tournoiement, un vertige. Hein. Donc, elle doit s'inscrire dans une tension, elle, mais une tension qui est la recherche. Bah, la recherche a lieu, hein. Il y a un point de départ, on ne sait jamais vraiment lequel c'est d'ailleurs. Et Ward Becker, qui, dans des entretiens que j'ai traduits récemment, dit « Bon, bah, je ne sais pas quand j'ai commencé ma recherche sur les musiciens. Est-ce que c'est quand j'ai commencé à être musicien? Est-ce que c'est quand j'ai commencé à prendre des notes le jour de mon travail, mes notes de terrain? Est-ce que c'est quand j'ai commencé à... quand j'ai eu l'idée ?» Bon, pas trop, mais il y a un point de départ qui est un arrimage. Et cette tension-là, elle est finalement une recréation de la tension entre la naissance et la mort. Mais on la recrée parce qu'on a besoin de la recréer pour ne pas être effrayé par cette grande tension qui est permanente. Elle. Et venir en bibliothèque, pour moi, donc ça fait partie de ce mouvement à partir du présent, hein, qui est une tension, donc deux tensions, c'est à partir de ce présent. C'est un mouvement physique, spatial, temporel, empirique, donc d'un déplacement, une prise de distance avec les livres, dans leur proximité, ça c'est paradoxal, mais c'est formidable pour ça. Dans leur présence en un lieu qui ne peut pas être un foyer, ben oui, et dans l'impossibilité de les emprunter, ça c'est important. Donc la lecture est inscrite dans ce mouvement. Et pour rejoindre un auteur donc, que je vais prendre un peu comme un boucher, je suis désolé encore auprès de Roger Chartier, je vais l'extirper dans un texte, de texte de Ivan Illich, du lisible au visible, qui fait ses commentaires sur le Didascalicon de Hugues de Saint-Victor au IIe siècle, et que je ne connais que par ce texte de Ivan Illich, j'en suis fort navré. Donc pour rejoindre ce que dit Illich sur la lecture à l'époque de Hugues de Saint-Victor au IIe siècle, la lecture est un mouvement du corps, des yeux, de la bouche, des oreilles, de l'âme et de la page. La page qui rayonne, qui vacille, et qui est éclairée à la lumière de la bougie, et éclairant l'œil du lecteur. L'œil augmenté alors était d'une toute autre nature que celle qu'on a vue avec Enders et Arendt. Pour Hugues, la page rayonne, mais pas seulement la page, l'œil aussi. Bon. Alors après, Illich dit que ce n'est pas métaphorique de Saint-Victor, lorsqu'il régissait cet art de la lecture à l'intention de ses élèves, concevait l'opération de l'esprit en relation analogique avec la perception de son propre corps. Bon. À la lumière de la sagesse qui fait briller la page, le moi du lecteur s'embrasera, et à la lumière de ce feu, le lecteur se reconnaîtra lui-même. Je dois avouer qu'après quelques 9 siècles après Hugues de Saint-Victor, je ne me reconnais pas toujours dans les pages des livres à la bibliothèque. C'est-à-dire que, mais je pense à la manière à sa manière que le livre de sciences sociales ou de littérature, encore une fois, pardonnez-moi l'écart, et le resserrement, est un remède pour l'œil. La page est un remède suprême. Véritablement, elle permet par le studium de regagner en partie ce qu'exige la nature, mais que les ténèbres intérieures pécheresses du lecteur lui dénient désormais. Bon, là c'est un peu plus lourd. Adam et Ève furent chassés du paradis, ils furent bannis d'un monde rayonnant dans un monde de brouillard, et leurs yeux perdirent la transparence et la puissance du rayonnement dans lesquels ils avaient été créés, et qui demeure le vœu de la nature et du désir humain. Bon, alors, tout de suite, je voudrais être, non pas moderniser les propos tenus par Illich décryptant Hugues, mais les rapporter à notre siècle, car il me semble infiniment pertinent pour décrire les mots de l'œil contemporain. Le lecteur se reconnaîtra lui-même, dit Hugues, par la voix d'Illich. Alors, lorsqu'un bibliothèque prend un livre, double tension, dans la tension du présent, je me déplace à l'intérieur du texte, le texte se déplace en moi, déplace des zones de brouillard, et rapidement, des images se créent qu'aucun autre ne peut avoir, aucun autre que moi ne peut avoir. Bon, lorsqu'il m'est nécessaire de ponctuer une lecture ou une recherche complémentaire, je me déplace, je déplace un livre, je déplace des pages, je déplace mon regard, je déplace mon questionnement dans le temps, l'espace, c'est le cheminement intérieur. Et le cheminement intérieur, lui, se poursuit en moi. La lecture se poursuit en moi. Ce cheminement, il est vraiment unique, quoi. Il est fait une rencontre avec un auteur, sa pensée. Ses mots exprimant sa pensée, le rebond de ses mots sur la mienne. Il y a un labyrinthe qui tisse des dalles, mais à mesure que les mots s'oublient et que ma pensée se forme, eh bien, ce cheminement, cet espace traversé, c'est un espace libéré. C'est un erré qui ne peut pas se recomposer. Il a été là, il n'est plus là. Alors, on pourrait dire que de la profondeur d'une pensée en cours accompagnée par un auteur, à la profondeur de données accessibles en permanence par des voies déjà cartographées, pour certains, il n'y aurait qu'un pas à franchir, voire aucun. Pour moi, le mouvement, à cet endroit-là, donc, n'aurait plus lieu d'être. Le cheminement comme déploiement inquantifiable, ce que j'ai vécu, paraîtrait pouvoir devenir la multiplicité de chemins, les possibles quantifiables algorithmiquement. Alors, la connaissance est un contenu, nous disent les promoteurs du web sémantique, par exemple. Ça, c'est un autre espace de lecture des sciences humaines, un espace de tous les possibles, vraiment. Le web sémantique vise à aider l'émergence de nouvelles connaissances. Après, je prends sur Wikipédia, je suis désolé, je suis un manquante. En s'appuyant sur des connaissances déjà présentes sur Internet. Pour y parvenir, le web sémantique met en œuvre le web de données, qui consiste à lier et à structurer l'information sur Internet pour accéder simplement à la connaissance qu'elle contient déjà. La connaissance qu'elle contient déjà. Alors, on a un peu l'impression quand même que la connaissance qu'elle contient déjà, moi, ça me fait penser à Marie Shelley et Frankenstein, quelque chose qui se compose à partir de morceaux effectivement séparés, ce que j'ai fait à partir de mon texte, hein, c'est un peu ça. Sauf que c'est l'impression, effectivement, d'une reconstitution et d'une totalité, là. C'est l'illusion d'une totalité. Et c'est pas la totalité partielle telle qu'on pourrait avoir dans un livre. C'est l'illusion d'une totalité et d'une permanence. C'est alors que je me demande quelle était l'expression allemande utilisée par Günther Anders pour redonner à entendre Arendt. Les yeux augmentés, disait-elle. Alors la traduction, aussi juste et belle soit-elle, de cette augmenté, hein, que fait l'auteur, et la joie des augmentés par sa voix, m'emporte ailleurs en ce siècle, en notre temps, en ce temps de futurologue d'une mythologie contemporaine, celle de l'immortalité machinique, enfin de la mémoire absolue si vous voulez, de l'archive, du goût de l'archive, pour reprendre Nicole Belmont avec qui j'en ai discuté. Un temps hors temps comme temps de tous les instants, chacun pour soi et par soi, les yeux augmentés doivent être miens, posséder une fonction, un état, un mode, comme dans l'expression contemporaine, être en mode, je suis en mode fatigue, je suis en mode relâche. Un mode qui correspond oralement au statut de nos avatars dans ce que nous appelons communément les réseaux sociaux. Greffez-moi des trucs, introjectez-moi une puce, immaculez-moi de la grande sémanticité du monde par les objets connectés, et je suis en retard. Je veux voir derrière les choses, je veux que les choses me disent ce qu'elles veulent dire pour d'autres, ce qu'elles me disent à moi. L'écran, les Google Glass, les lunettes Oculus Rift ont quelque chose d'un élixir médical go-rythmique qui rend obsolète le moindre fétiche, le moindre objet représentant quelque chose que l'on sait pertinemment qu'il n'est pas. Baptême permanent des choses fraîchement créées. Vous vous rappelez le Duende ? Il disait Lorca. L'espace transitionnel, dit Winnicott, dans un autre champ, c'est-à-dire l'objet que l'on crée, mais qui existe déjà. Mais on crée quand même. Donc il existe déjà. On crée quand même. Regardons les choses en face, dans leur nombre, leur statistique. Stop. Cessons le jeu de la vacance, de l'abîme, de l'écart. Il faut regarder les métadonnées, les structures moléculaires des choses. Et nous serons l'augmentation même. Alors, je vais aller juste pour dire que ça, c'est pas... Il y a une vraie tendance qui se crée, qui a été d'ailleurs établie par un organisme qui s'appelle le National Intelligence Council, qui établit pour 2030 des tendances globales, et qui dit que la tendance la plus radicale concerne la modification et l'augmentation des capacités humaines par les technologies et l'évolution transhumaniste disruptive. Des implants rétiniens permettront une vision nocturne, nous dit Thierry Berthier, un maître de conférence en mathématiques, et tenant qui a un blog sur les évolutions technologiques. Donneront accès au spectre de lumière inaccessible chez l'homme de 2014. Les progrès réalisés sur la chimie des neurostimulants augmentent nos capacités de mémorisation, d'attention, de vitesse de réaction, de réalisation. Dans 16 ans, en 2030, l'homme de 2014 sera dépassé, la femme aussi, hein. Pardon. Plus aucune zone d'ombre ne nous restera, plus aucune couleur ne nous échappera. Les yeux augmentés de 2030 n'ont rien à faire avec ce qu'avait donné à entendre Enders. Donc banni d'un monde rayonnant, rappelez-vous, nous devons le rayon. Banni d'un monde de transparence, nous créons la permanence et la profondeur infinie. À quoi bon les livres, dit dès lors? À quoi bon la lecture même? À quoi bon les chercheurs? Puisque la connaissance se crée d'elle-même, telle une nanoparticule autogénérative ou algorithmique. Nous pouvons voir son image sur l'écran, nos yeux sont devenus l'écran, nous sommes leur miroir. Il faut que les livres disparaissent ou qu'ils nous engloutissent. Ça, c'est un conte pour Bibliophile, qui est paru en 1894, Bibliophile qui aimait sans doute à se faire peur, et qui a été écrit par Octave Uzan et Albert Robida. C'est par la voix d'un humoriste, John Poole, que la fin du livre s'annonçait, heureusement. Mais la piscine aujourd'hui, John Poole, la piscine aujourd'hui, elle sert à former des ingénieurs en informatique, dans une école comme 42, par exemple, tenue par Xavier Niel, qui la finance, dont les élèves sont recrutés sur des bases cognitives qui sont intrinsèques aux capacités du cerveau, qui ne s'apprennent pas, qui sont naturelles, et qui servent à déterminer les candidats qui ont le meilleur potentiel. De l'humour, comme John Poole, Anders en avait sans doute, mais il n'aurait sans doute pas ri en entendant cela, et peut-être aurait-il ajouté un chapitre à son troisième tome inachevé sur l'obsolescence de l'homme, qu'il aurait intitulé « L'obsolescence de l'œil », mais certainement pas « L'œil augmenté ».
Merci. Je crois que pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons pas faire de débat maintenant. C'est vous qui le dites. On peut avoir.
On a un petit quart d'heure,
tu peux. On a un quart d'heure ? Alors, excusez-moi, j'avais mal compris. Je pensais que moins le quart était le coup près. Eh bien, la parole est à la salle.
Je veux poser une question à Emmanuel Desjoux. C'est sur cette volatilisation du texte, les livres. Qu'on peut infiniment réviser, qui m'a fait penser qu'il peut être éternellement contemporain à l'homme qui l'est fait. On arrive là à la maxime, l'homme est la mesure de toutes les choses, finalement. Et qu'est-ce qui se passe avec la vérité dans un monde pareil? Si on a les versions déjà qui changent, qui s'interposent toujours, si l'homme peut lui-même changer à chaque moment et à chaque moment changer son texte, qu'est-ce qui va devenir, que tous les vérités vont être provisoires dans un monde comme ça, on arrive là au sable, qu'est-ce que notre connaissance va devenir dans un monde comme ça?
Oui, moi je crois que votre remarque est tout à fait pertinente et judicieuse, en écho à ce que je disais. Il me semble qu'effectivement l'un des grands risques de l'âge numérique, c'est la non-stabilisation des textes. Et ça posera pour nous ça risque de poser un véritable défi épistémologique, parce que nous, je pense les chercheurs et même les lecteurs appréhendent un texte à partir de sa date. La première chose qu'on regarde dans une bibliographie, c'est pas où c'est publié, c'est la date de publication. Après, on se demande où est-ce que c'est publié, et puis après, on se demande quel est l'éditeur. Mais c'est dans cet ordre-là qu'on cherche à repérer un texte, à le situer dans le temps. Car je pense que nous sommes tous des historiens, comme d'ailleurs, quelque part. Nous vivons dans l'histoire, à partir du moment où nous accédons à l'histoire, nous vivons dans l'histoire et nous repérons toujours à l'histoire, ou au temps qui passe. Ça, c'est... Par exemple, ce livre se révise toujours. Il y a un très bon exemple, je l'ai cité tout à l'heure, mais dans un autre, pour vous dire autre chose, c'est le livre « L'amour et l'Occident » de Denis de Rougemont. C'est un livre qu'il a repris trois fois. L'édition définitive que vous... prétendument définitive, mais... Bon, je pense qu'il est mort ou pas ? Pas sur moi, je crois qu'il est très âgé maintenant, donc il a dû arrêter de réviser son édition. Mais on lit un texte qui a au moins trois factures différentes. Et quand on lit le livre qu'on a dans les mains, on ne sait pas ce qui a été écrit en 1939, première publication du livre, ce qui a été écrit en 1956, deuxième révision fondamentale du livre. Et puis, c'est plus clair, puisque la dernière partie du livre est une sorte de... d'Adantum qui lui est daté. On dit bien à quelle époque il a été écrit. Mais il y a de ce point de vue-là, c'est un livre qui nous rend mal à l'aise parce qu'on n'arrive pas à le situer. C'est un exemple. Mais je pense que si l'essentiel de la production scientifique est tenté de cette révision perpétuelle, on va vers une espèce de déstructuration de nos repères épistémologiques qui sont la première façon de lire les textes. Qui sont pour nous la première façon de lire les textes, l'entrée même. Et puis il y a cette autre chose auquel vous faites allusion, c'est que un auteur écrit un livre, il est publié, et normalement l'auteur a sa vie, le livre a sa vie. Peut-être le livre a une vie très courte et l'auteur a une vie plus longue. Mais ça devient de vie parallèle, autonome. Et s'il y a toujours une nouvelle interférence entre la vie de l'auteur et la vie du texte, je pense que c'est source de véritable confusion qui serait tout à fait dommageable à une bonne structuration des choses. Mais bon, c'est peut-être aussi ce qui nous attend.
Roger Chartier.
Oui, je voulais revenir au portable de Jean-Frédéric, dans lequel il y a aussi le numéro personnel de William Shakespeare. Donc, parce que je crois que ça illustre le point que j'essayais de faire sur l'équivalence et ensuite sur ce qui a été dit sur le Brésil. Parce qu'évidemment, il y a le folio de 1623 dans ce petit portable, ce qui veut dire qu'on peut avoir accès aux textes qui ont été publiés dans ce volume et qu'on peut avoir accès à une forme de représentation de l'objet livre. Mais évidemment, si, et c'est fondamental, je serais très heureux d'avoir un portable avec toutes ces données, en même temps, je pense que cela ne doit jamais être compris comme dispensant, par exemple dans une pratique pédagogique, d'avoir un rapport avec l'objet même. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental dans l'objet ? Peut-être que ce n'est pas forcément les textes, c'est la monumentalité des folios. Ce qui identifiait pour un auteur dans un genre particulièrement second, une sorte de dignité canonique typographique. Et c'est pour ça, quand on peut le faire, par exemple, dans des universités qui possèdent, il n'y en a plus en France, puisqu'il n'y a que deux exemplaires connus du folio à la BNF et puis maintenant à Saint-Omer, mais quand on peut le faire aux États-Unis, ça crée un type de perception de l'œuvre complètement différent. Et alors donc, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit aller lire le folio dans un des 233 exemplaires conservés, mais qu'il y a là une question par rapport à ce refus de l'équivalence. Ce qui amène, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit que Laura de Meyo Dessouza sur les possibilités de la numérisation. On voyait qu'il s'agissait ici de numérisation de fonds, fonds d'archives, fonds de bibliothèques et peut-être pour les éditions modernes un certain nombre de livres qui permet des économies, la communication à distance. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous avez dit du journal des Seignas, parce que ça peut assurer la survie de certains types de publications qui autrement meurent. Et ce que vous avez décrit était très parallèle à une grande initiative qu'avait eu Pierre Bourdieu, Libère, qui était un supplément culturel, intellectuel, qui au début était présent dans Le Monde, la Frankfurter Allgemeine, El País, et puis qui a disparu. Et sans doute, en un temps différent, dans un temps du numérique, il aurait pu avoir cette vie. Mais alors, je ne crois pas qu'on puisse en tirer la conclusion sur les bourses que vous avez données. Parce qu'il me semble que pour la raison du folio, malgré sa présence sur le portable de Jean-Frédéric, avoir un accès numérique à un texte est une chose fondamentale. Mais dès que l'enquête ou le travail devient plus précis, il faut premièrement prendre en considération que les numérisations des textes anciens ont fait un choix. En général, on a choisi de numériser une édition. Et ce n'est pas forcément ni la première, ni celle qui aurait le plus d'intérêt pour l'auteur de la monographie. Donc la venue en bibliothèque où cette édition ou d'autres éditions est conservée reste fondamentale. Et d'autre part, la bibliothèque est un lieu de sociabilité. C'est-à-dire que pour les étudiants étrangers venant en France ou l'inverse, c'est un lieu où sont déployées des fonctions et des rôles qui ne se limitent pas à venir contrôler l'édition de tel ou tel texte. Et il me semble que dans ce cas-là, dans ce cadre-là, se joignent en quelque sorte la question d'une rigueur dans la démarche, on va dire, bibliographique, avec des fonctions intellectuelle parce que de sociabilité, ou sociale parce qu'intellectuelle, de la bibliothèque. Le dernier point, évidemment, la traduction, c'est une des grandes faiblesses de l'édition française, mais pas depuis quelques années, ça a été renforcé, comme j'essayais de le situer. Ce que vous avez dit sur les sciences sociales, il y a tout à fait vrai, c'est un scandale qu'il n'y ait pas un accès plus grand à d'autres traductions. Mais dans le propre domaine qui nous intéressait plus directement par rapport à l'histoire de la culture écrite, on peut quand même rappeler que Francis Urbico, qui est sans doute le plus grand philologue et éditeur de textes au monde, à l'heure actuelle, il y a un seul livre traduit en français et qui est assez marginal dans sa production, que de Armando Petrucci, sans lequel peut-être nous pourrions même pas aborder ces questions, il n'y a qu'un seul livre traduit. Et donc je crois que le problème est grave, il est général. Il est comment arriver à pallier cette insuffisance. Alors j'ai vu qu'il y avait des efforts, ce petit catalogue qui nous a été distribué est formidable, puisqu'il traite aussi de langues qui sont encore plus difficiles que l'italien de Petrucci ou l'espagnol de Rico. Et je ne sais pas, est-ce que le numérique, c'est une question posée aux éditeurs, est-ce que le numérique est une solution possible pour permettre des traductions qui seraient moins coûteuses? Mais le coût d'une traduction, c'est d'abord le traducteur. Et je pense que c'est légitime et c'est fondamental. C'est le cas brésilien que vous avez situé, il est particulièrement aigu pour notre journée d'aujourd'hui, mais il s'insère dans un cadre beaucoup plus large, où de grands classiques, des philologies, critiques textuelles, sciences sociales, histoire, n'ont jamais été traduits.
Madame, et ensuite, Monica. Madame.
Elena Imbata, je suis directrice de recherche chez l'Instituto CNRS. Je viens du Brésil maintenant, après 4 mois où j'ai enseigné à l'Université de São Paulo. Et avant mon départ, j'ai vu des personnes du consulat de la France à São Paulo et ils m'ont beaucoup incité à traduire, à faire traduire dans une collection qui venait d'être créée des sciences sociales, un bouquin que j'ai fait avec des collègues de l'Université de São Paulo et des collègues français et qui a été publié dans les sciences de presse de Sciences Po à Paris. Et j'ai été déjà publiée dans l'année de la France au Brésil, un dictionnaire critique du féminisme avec une subvention de la France. Or, l'inverse, et c'est ça l'écho que je voulais apporter à ce qu'a dit Madame Elisova, les traductions de ce qui est publié en portugais vers le français est ridiculement petit et des ouvrages très importants, comme elle a dit, n'ont pas eu de traduction vers les français. Et je voulais apporter un témoignage. Nous avions dans notre laboratoire un accord Capescofecub en 2000, ça a été renouvelé, etc. Et aujourd'hui, l'accord Capescofecub ne fait pas des divisions de la subvention par partie. Il n'y a pas un financement pour l'émission, un financement pour etc. Mais au début, en 2000, il y avait. Et j'ai constaté que ceux qui venaient du Brésil avaient, je ne sais pas, entre 500 et 1000 euros qu'on pouvait utiliser pour acheter des ouvrages, pour faire des abonnements à des revues, etc. Mais quand nous, on allait au Brésil, on n'avait pas le droit d'acheter ni livres, ni revues, etc. Et je crois que ça vient de la création de Papes Confiture par quelqu'un comme Giscard d'Estaing, hein, parce que Giscard d'Estaing est très très d'accord. Mais et c'est une approche coloniale de la question où on croit que les Brésiliens ont absolument besoin d'acheter de la lecture française pour amener au Brésil, pour lire, pour diffuser, etc. Mais que nous, quand on va, nous, là, je suis brésilienne, mais je parle en tant que laboratoire français, quand on va au Brésil, on n'a pas les droits, j'ai toujours acheté de mon argent, y compris les données, il sait brésilien, il est vert, SNAD, etc. Parce qu'on ne peut pas, on n'avait pas une partie de financement Capes Confiture, vous pouvez aller à l'achat des ouvrages et des publications et des documents brésiliens.
Merci de ce témoignage déplorable, mais parfaitement utile à notre discussion. Monica.
Je voulais aussi dire deux choses par rapport à ce qu'avait dit Laura Dumas-Lussaud. La première chose, c'est par rapport à ces grands efforts, je pense que c'est très important de l'avoir décrit comme ça, ces grands efforts démocratisants dans un pays avec des si grands problèmes structurels et surtout des très grandes inégalités régionales, la question de la numérisation a quand même un petit peu rééquilibrer la fragilité des bibliothèques et surtout les grandes distances et les inégalités. Et il y a un autre élément dans cet effort que tu n'as pas mentionné, je pense qu'il est important, c'est les ciels brésiliens qui est actuellement, si je ne me trompe pas, le plus grand portail de périodiques scientifiques au monde et qui fonctionne très bien avec des indexations très intéressantes, bilingues, et qui est vraiment un outil fondamental pour qu'on puisse, quand on est dans un endroit au fond perdu, dans un pays où des distances sont très importantes, pouvoir consulter des périodiques électroniques de la même façon que quand on est dans le cœur de São Paulo, dans le cœur de Rio. Donc ça, c'est très important. Et ma deuxième remarque, c'est celle que M. Chartier m'a dévancée. Moi, je pense aussi que les bourses ne doivent pas être remplacées par la recherche faite à la maison. Et les étudiants que je reçois ici, je peux me réjouir. Ils ont toute une expérience très intéressante pour eux de prendre un peu de recul, un peu de distance vis-à-vis de leurs problématiques, de rester un peu moins auto-centrés sur les problématiques brésiliennes, de respirer un peu plus. Mais c'est assez unanime, même si mon échantillon n'est pas représentatif. L'expérience de fréquenter les bibliothèques, c'est celle qui touche le plus aux étudiants que je reçois. Et je pense que c'est très important qu'ils viennent consulter des bibliothèques physiquement. Voilà.
Merci pour ce mot de la fin.
Une question.
Ah, alors vraiment une très courte intervention parce que je suppose.
Oui, une question parce que vraiment le débat est très intéressant. Il situe vraiment tous les problèmes les plus importants de ce qui croise en fait les rapports France-Brésil et sur la question de l'édition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que dont la France doit se réapproprier l'intelligence du Brésil dans ce que vous dites. Et de la même façon, j'ai été très sensible au fait de la présence du corps, du livre comme corps, parce que je pense que quand on aime Freud et quand on aime aussi croiser les questions éditoriales avec les questions de la parole elle vient du corps. Donc je pense qu'il y a des échanges qui sont en train de se faire ici qui sont extrêmement importants pour que chacun de ces deux pays bénéficie de ce qui est important pour lui et le transfère, voilà, au sens le plus freudien du terme.
Merci. Et à cet après-midi.